Voilà, hey, notre invité.
Oui.
Médecin Karim Elayoubi, comment allez-vous?
Oui, bonjour à vous deux, comment ça va?
Ça va bien, ça va bien. On a vu cette semaine, notamment Santé Québec, nous parler du dossier numérique. Qu'est-ce qu'on peut décoder tout ça? Santé Québec nous dit, nous autres, on fonce avec le dossier numérique. Et là, tu as quand même le ministre responsable de la cybersécurité, Gilles Bélanger, qui dit non, faites attention, vous n'êtes pas prêts, là. Donc, est-ce qu'on s'en va dans un mur? Est-ce que c'est un accident de char annoncé?
Bien, il y a deux choses ici, Pierre. C'est-à-dire, est-ce que Santé Québec sont prêts, en réalité, pour leur prototype? Là? C'est-à-dire, ils disent que Mme Biron dit qu'il y a 2-3 logiciels qu'elle veut tester en même temps pour les mettre en compétition ensemble, mais qu'ils soient interopérables les uns avec les autres, en cas où qu'il y a une compagnie qui lâche à un moment donné ou qu'il y a des bris avec un. Ça, c'est la façon de faire, là, standard. Donc, ça, j'ai pas de problème avec ça. Donc, est-ce que Santé Québec est réellement prêt? Mais c'est le ministère qui, lui, est frileux en raison des déboires avec sa clique. Et politiquement parlant, ils veulent pas y aller tout de suite parce qu'ils ont peur que s'il y a le moindre mécontentement du personnel ou les moindres ratés, ils vont en payer un prix politique. Je le sais pas. Ce que je sais de ce que Santé Québec dit à l'heure actuelle, c'est quoi un bon logiciel de santé numérique quand on regarde les meilleurs au monde, là, quand on regarde l'Alberta en a un très bon. Ceux qui se démarquent, on a beaucoup l'Estonie, le Danemark, c'est vraiment les meilleurs au monde, là, dans le monde développé. Faut que ce soit interopérable, faut que ce soit user-friendly pour les professionnels de la santé. Au contraire du DSQ, qui est le dossier Santé Québec à l'heure actuelle, il ne faut pas que ce soit un outil uniquement consultatif. Il faut que ce soit un outil qui, à la fois d'être interopérable à travers toute la province au complet, il faut que ce soit un outil exécutoire, c'est-à-dire lorsque vous voulez faire une prescription, vous la faites via ça, pas juste un outil de consultation comme ce qu'on a. Ce que Santé Québec nous dit à l'heure actuelle, okay, s'ils disent vrai, je ne le sais pas, je n'ai pas vu leur logiciel, s'ils nous disent vrai, ils ont considéré tout ça en même temps. Et là, vraiment, on pourrait avoir des gains de productivité et on pourrait sauver du temps. Bon, le problème, c'est que le ministère n'a pas l'air tellement sûr.
Non.
Le ministère est tellement frileux et tellement pas sûr qu'il envoie, que le ministère de la Santé envoie des conseillers, la ministre, des conseillers de son cabinet, faire des visites surprises dans les hôpitaux pour voir comment le personnel considère, parce qu'il y a des hôpitaux qui sont comme les hôpitaux dans le nord de la ville de Montréal ainsi qu'au centre du Québec. Il y en a qui ont vraiment accès à la plateforme et qui auraient travaillé directement avec le gouvernement et la compagnie privée américaine là, qui monte le dossier afin qu'il soit un peu différent du DSQ qui a été formé vraiment top-down, c'est-à-dire c'est vraiment en haut, ils ont pris des décisions dans une tour d'ivoire sans trop consulter les gens sur le terrain. Apparemment, là, les gens auraient vraiment été consultés sur le terrain pour qu'ils soient plus appropriés à la pratique clinique. Mais écoutez, le ministère a l'air d'être très frileux à l'heure actuelle, ce qui n'est pas une bonne nouvelle parce que, tu sais, c'est peut-être qu'ils ont vu que ça allait faire comme ça clique et que ça allait foirer complètement. Ce qu'il faut dire, c'est que la différence avec ça clique, ça a été vraiment fait par le ministère lui-même, la cybersécurité. Ici, c'est Santé Québec qui a pris la charge de ce dossier-là. Est-ce qu'ils ont fait un meilleur travail? Je pense qu'il faut le déployer pour le voir.
Mais,
est-ce que ça va arriver? Bien, c'est sûr que c'est le ministère qui décide en bout de ligne, là. C'est pas Santé Québec.
Oui, mais dans le cas de la SACLIC, c'est la SAQ, là, qui est comme une société d'État à part. Mais là, on a donné à Santé Québec des pouvoirs. Et là, c'est le gouvernement qui dit à Santé Québec, attention, là, nous autres, on s'en va en élection. Si ça foire dans les 6 prochains mois, pendant qu'on est en campagne électorale, on va avoir l'air d'une gang de dingos, là.
Bien, moi, je pense que c'est ça. Il y a quelque chose de politique. À savoir, est-ce que c'est justifié ou non? Est-ce que c'est juste... ça, c'est ça que je ne sais pas. Est-ce que le logiciel, il est bon en ce moment puis il est prêt à être déployé? C'est juste qu'il y a une forme de paranoïa politique de la part de la CAQ. Parce que, comme vous dites, ça va tellement pas bien en ce moment. Là, il y a une nouvelle chef qui arrive. Ils ont des chances de remonter dans les sondages. Si jamais, à partir du 9 mai, les professionnels de la santé se mettent à crier puis dire que c'est une catastrophe, comment je peux dire, ça sera pas bon politiquement pour eux. Puis il y a aussi, c'est sûr et certain que ça va arriver. Au départ, il va y avoir des problèmes. Puis, tu sais, il y a des informaticiens qui en ont parlé. Il va y avoir des biais qui vont être plus élevés, des biais informatiques qui font en sorte qu'il va y avoir des erreurs au début, puis il va y avoir une période d'adaptation. Mais un des problèmes, c'est que la période d'adaptation, si elle dure quelques mois, les élections sont dans quelques mois.
Ben oui,
Donc, politiquement parlant, c'est pas un bon moment pour la CAQ. Ça aurait été un meilleur moment, par exemple, un an après leur élection ou vraiment en début de mandat, s'ils avaient sorti ce projet-là, il y aurait eu le temps de le mettre à exécution. Mais politiquement parlant, c'est pas un bon moment pour eux, disons, parce que des ratés, c'est sûr qu'il va y en avoir. Mme Biron, quand on regarde, lorsqu'elle parle, elle le dit.
Oui.
La compagnie américaine qui ont formé, qui sont très spécialisés dans ce domaine-là, on dit c'est inéluctable. Au début, il va y avoir des ratés.
Donc, on décode que ça sera pas lancé en mai. Là. Le gouvernement va avoir le dernier mot là-dessus. Là. Ça sera pas Santé Québec.
Ah, oh, bien, c'est sûr, c'est eux qui sont les élus. C'est eux qui vont avoir le dernier mot.
Exact.
Santé Québec, en réalité, ils exécutent, mais le gouvernement, c'est les élus, puis c'est eux qui vont avoir le dernier mot. Donc, je ne m'attends pas à ce que ça sorte directement le 9 mai comme prévu.
Non, c'est ça. Bon, Christine Fréchette, élue première ministre du Québec, elle a quand même fait des promesses, elle. Là, oui. Lancer des projets pilotes de salles d'attente virtuelles dans les urgences pour permettre aux patients qui le peuvent d'attendre à domicile. Fait que là, tu pars, tu t'en vas à l'urgence. Là, tu t'inscris. Là, on dit, ben là, M. Couture, il y a 6 heures d'attente. Garde, retournez chez vous, allez travailler. Tu sais, bon, faites de quoi? Puis on vous appellera. C'est comme si on cautionnait l'attente à la soviétique. Tu sais, c'est un peu capoté. Je veux dire, si ça ne te tente pas de faire la job, ben donne-la à quelqu'un d'autre qui va faire la job, là.
Oui, bien, je suis tout à fait d'accord. Puis surtout que c'est. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que Mme Fréchette, elle a dit. Mettons qu'elle avait dit, c'est pour le confort des patients, ils vont être mieux à attendre à la maison qu'à l'urgence pour ceux qui veulent le faire. Bien, au moins, il y aurait eu de l'honnêteté. Sauf que qu'est-ce qu'elle a dit? Là, je la cite. Elle a dit que ça allait aider l'accès à la première ligne. Mais non, ça n'aide pas du tout l'accès à la première ligne. Ça ne fonctionne pas comme ça. On n'augmente pas. En faisant une telle manœuvre, une telle mesure, on n'augmente pas la productivité, on n'augmente pas le nombre d'actes cliniques par unité de temps ou le nombre de patients en vue. Et un des problèmes, ça peut être une fausse bonne idée. Moi, qu'il y ait des salles d'attente dans les hôpitaux qui soient beaucoup plus confortables, je pense que les patients méritent tout à fait ça. Un des problèmes avec une mesure comme ça, imaginez-vous, c'est pas tout le monde qui demeure juste en face de l'hôpital.
Mais non.
Puis lorsqu'ils sont appelés, ça prend 30 secondes à retourner à l'hôpital. Il y a des gens qui demeurent à 15, 20, 25, 30, 40 minutes de l'hôpital. Le temps que ça peut augmenter les délais d'attente, selon moi. Parce que faites juste vous imaginer, vous êtes chez vous à 20-25 minutes de l'hôpital. On vous appelle, on vous dit on est prêt à vous voir. L'infirmière ne peut pas vous appeler pour vous dire le médecin est prêt à vous voir dans 25 minutes. Dans 25 minutes, il va peut-être y avoir une ambulance. Quand le médecin est prêt à vous voir, c'est maintenant. Et là, si on vous appelle, on vous dit venez, ben là, vous, peut-être, vous allez vous déplacer, vous allez arriver. Puis finalement, ben, il y a 2 ambulances qui sont arrivées. Et au lieu de passer, si vous avez attendu à l'hôpital, ben là, vous allez vous retrouver à attendre un autre 2-3
ben oui,
heures.
Ben oui, c'est ça.
Ça, c'est une possibilité. Donc, ça peut même augmenter les délais d'attente à l'hôpital, une telle mesure. Et je ne crois pas que. Je crois pas que c'est une bonne idée, honnêtement.
Non, elle dit aussi augmenter l'accès à la téléconsultation auprès d'un professionnel de la santé. Ça, on l'attend depuis un bout, là.
Oui, ça serait une bonne idée, par exemple. Et un des problèmes avec la téléconsultation ici, c'est que c'est très restrictif, hein, côté qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on a le droit de ne pas faire. Et je pense qu'il faudrait que le gouvernement s'entendre avec les autres professionnels de la santé, que ce soit le Collège des médecins, que ce soit également les ordres des infirmières, etc., pour voir est-ce que s'il y a possibilité d'assouplir un peu qu'est-ce qu'on a le droit de faire, parce que c'est sûr que s'il y a un pourcentage significatif de consultations qui se ramasse en disant ben écoutez, je peux pas faire grand-chose, on est en télémédecine, je vous conseille d'aller soit à l'urgence, soit à prendre rendez-vous avec un médecin ou une infirmière spécialisée, ben, on n'est pas tellement avancé. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire au téléphone ou qu'on ne peut pas faire en télémédecine. Je ne dis pas qu'on peut faire toute la même chose, mais lorsqu'on regarde par rapport à d'autres types de législation, on semble trop restrictif ici par rapport à ça et ça pourrait valoir la peine d'élargir qu'est-ce qu'on est en mesure de faire. Mais là, un des problèmes, l'histoire, c'est que ce que la CAQ veut faire, c'est qu'ils veulent qu'il y ait un logiciel de télémédecine standardisé partout en province. Ça, c'est problématique, là, parce que sinon, combien ça va nous coûter, cette affaire-là, puis il risque d'être moins bon que bien des logiciels qui existent déjà. Donc, on peut faire de la télémédecine, qu'il y ait des bases de sécurité puis de confidentialité par rapport au logiciel, mais on n'est pas obligé d'avoir le même logiciel tout le monde puis de déployer ça à coût de plusieurs milliards de dollars avec Santé Québec. Là. Non, ça, moi je suis tout à fait contre. On n'a pas les moyens de payer ça. Puis il existe plusieurs très, très bons logiciels.
Oui, mais ça se fait déjà, là. Tu sais, je regarde dans le secteur privé, là, les gens qui ont des assurances collectives, là, ben souvent, on a accès à un médecin en téléconsultation.
Oui, tout à fait.
Et le médecin est à distance, puis là, il dit, bon, ben tu fais le pot aujourd'hui, OK, telle affaire. Là, encore, on comprend que c'est limité, là, mais ça peut débloquer bien des affaires dans le réseau, là.
Absolument.
Donc, oui, ça serait d'instaurer peut-être des téléconsultants, des médecins avec une ligne spéciale, puis on les met à quelque part, puis c'est un service connexe à Santé Québec, là.
Oui, ça pourrait être une solution. C'est sûr qu'en télémédecine, vous avez la chance de faire un des gros avantages, c'est que les patients n'ont pas besoin de se déplacer. Ils peuvent, des fois, ne même pas manquer de travail. Donc, on sauve du confort, on sauve du temps aux patients, puis on sauve de la productivité générale au niveau du travail. Parce que juste se déplacer, si vous allez dans une clinique à Montréal, par exemple, des fois, juste y aller, revenir.
Ah, c'est une heure et demie, oui.
Votre journée est juste finie.
Oui, vous avez scrappé votre journée. Vous dites qu'on est en retard. Ça veut dire que dans d'autres pays, ça, c'est déjà implanté puis ça va bien?
Oui, tout à fait. Il y a plus de télémédecine, particulièrement dans plusieurs pays européens où il y a de la télémédecine et même de la télémédecine inter-pays, genre Autriche, Allemagne, où est-ce que les licences sont reconnues d'un côté et de l'autre. Vous êtes en Autriche, vous avez besoin d'une prescription, vous appelez un médecin en Allemagne qui, lui, vous évalue en télémédecine et vous prescrit quelque chose. Puis le pharmacien en Autriche vous donne la prescription. Oui, ça existe. Il y a plus d'interopérabilité entre les législations européennes et il y a plus de possibilités de télémédecine.
Est-ce qu'on pourrait voir ça au Québec?
oui,
L'ordre des médecins, je ne suis pas sûr, là.
Ben c'est un peu ça. C'est qu'il faut que le gouvernement, il faut que le ministère de la Santé s'assoie avec les autres professionnels pour laisser. Il faut que ça demeure sécuritaire, mais je veux dire, s'il y a d'autres législations qui le font et qui sont des pays tout aussi crédibles que nous en matière de santé, voire même plus à certains égards, ben je vois pas pourquoi on pourrait pas ici aller de l'avant également.
Autre chose qu'elle promet, offrir 1 million d'heures supplémentaires de soins à domicile.
Ben, soins à domicile, ça, c'est une très bonne chose, tant qu'à moi. Maintenant, de quelle façon elle veut le faire, c'est toujours dans la façon d'exécuter le processus. C'est ça qui, moi, c'est surtout ça qui m'intéresse, parce qu'on peut promettre beaucoup de choses, mais comment on va l'appliquer. Mais les soins à domicile, oui, il faut faire un virage de plus en plus vers les soins à domicile, parce qu'un lit de soins à domicile coûte significativement moins cher qu'un lit institutionnalisé. Et donc, non seulement on sauve de l'argent, mais on respecte plus la dignité des patients, parce qu'il y a beaucoup de patients qui aimeraient demeurer à domicile. Des fois, c'est sûr que lorsqu'on se compare, le pays qui performe le plus en matière de soins à domicile, le CHSLD, ça existe à peu près pas là-bas. Il n'y a presque rien d'institutionnalisé, c'est le Danemark. Mais une des barrières qu'on a ici, c'est que, je dis pas que les familles ne s'occupent pas de leurs parents, c'est pas ça que, ou de leurs grands-parents, c'est pas ça que je dis, mais on a une anthropologie qui est un peu différente de ces peuples-là. Et on a une tendance à institutionnaliser plus rapidement et de garder nos aînés moins à la maison.
On aime ça les parquer dans un foyer de vieux puis dire, je vais occupez-vous-en.
Ben, si on se compare à d'autres peuples, la réponse c'est oui. Donc, c'est ça. Moi, j'utilise une courbe de Gauss. Je regarde statistiquement qu'est-ce qu'on fait par rapport à qu'est-ce qu'on fait. Puis c'est sans jugement, c'est mathématique.
Non, c'est ça.
Et donc, c'est sûr que c'est beau que le gouvernement veuille faire ça. Moi, je suis tout à fait d'accord. Ça fait partie également des propositions que j'avais déjà amenées et que je veux encore amener. Mais la limite va demeurer jusqu'à quel point les aidants naturels sont prêts à s'investir. Parce que oui, l'État peut s'investir, mais lorsqu'il y a des aidants naturels qui s'investissent, c'est toujours préférable.
Ben oui.
Et ça aide beaucoup à garder là, les patients, non seulement à conserver plus d'autonomie, mais également être plus heureux.
Fait qu'il y a du pain sur la planche, là. On a jasé de dossier numérique, on est en retard. Après ça, téléconsultation, on est en retard. Puis soins à domicile, on est en retard.
Ben oui, on est, c'est sûr que pour être en retard, on est en retard.
Okay.
Sur beaucoup d'aspects, il y a peu de choses en santé qu'on n'est pas en retard par rapport à nos pairs du G7, même du G20. Mais écoutez, il faut commencer à quelque part.
Ah oui, non, c'est sûr, il va falloir commencer à, à piocher éventuellement dans le dossier. Mais on va souhaiter beaucoup d'optimisme. Karim Elayoubi, médecin, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
Bonne journée. Voilà. Il jase.
Ben oui.
Il jase, puis il a pas peur de parler. Là. Je veux dire, il y en a des médecins, là, tu leur poses une question. Off the record, il jase, mais quand il arrive au micro...
C'est différent.
C'est très différent. Lui, mais quand même, il est sur le terrain. Lui,
tout à fait.
Donc, il voit
ouais, il voit très bien. Puis effectivement, l'histoire des salles d'attente virtuelles, ça améliorera pas le service puis l'accès à première ligne.
Non, imagine-le comme tu veux, là. Tu sais, moi, je veux dire, là, moi, je paye en malade mes impôts pour avoir
très cher.
À une première ligne de qualité. Là, si tu me dis, viens ici, présente-toi au BAT, puis...
On va t'appeler.
On va t'appeler dans 6 heures, 8 heures, puis peut-être qu'on t'appellera pas.
Don't call us, we'll call you.
Là, je veux dire, ça te tente pas de faire job, donne ça à quelqu'un d'autre.
T'as pas le choix.
Pas le choix.
Voilà. Le privé, par exemple? Ah?
Ben, privé, je veux dire...
Faut que tu payes pour.
Ben non, mais c'est pas le privé. Je veux dire, moi, je paye des impôts, puis le gouvernement fera affaire qui veut. En autant que j'attende pas 20 heures sur l'urgence.
En effet.
Bon, après la pause,
oui.
Notre invité, on va jaser de, dossier numérique, puis toute cette histoire-là.
Vote
là,
électronique.
Vote électronique. Bien, on a parlé avec récemment, là, mais il y a d'autres choses aussi. C'était l'autre dossier, c'était... Hein, c'était quoi donc? C'était l'histoire d'Amazon, là, tu sais. On donne à des compagnies comme Amazon Web Service, on donne des contrats gouvernementaux. Oui. Est-ce que c'est dangereux, ça, ce qui s'en vient?
Les clouds, là.
Oui, puis le dossier numérique aussi, parce que là, tu vois, ben le gouvernement commence à backtracker, là. Là, en fin de semaine, j'ai encore vu Gilles Bélanger. Oh, et puis sûr, le gouvernement ne veut pas avoir ça d'impact pour les élections.
Assurément.
Le dossier numérique qui va repopper, puis...
Bon, ben, retardement, cette histoire-là.
Voilà, on en parle avec notre expert. On revient.
Coup dur.
Petite pause. On revient dans pas long.
Dans le mid.
Ouais.
Radio X.